Bien, alors bonjour à toutes et tous. Je remercie les organisateurs pour l'invitation à cette journée d'études. Donc, je suis très heureux d'être présent parmi vous aujourd'hui et puis avec la qualité des communications qui ont été présentées ce matin et puis en début d'après-midi. Alors, je vais présenter ici aujourd'hui une enquête qui est en cours que j'ai intitulé en fait la communication intitulée culture numérique des visiteurs à usage des réseaux sociaux numériques, le cas des expositions Duchamp et Kuhn sur Twitter. Alors elle sera un petit peu différente peut-être que celles qui ont été présentées jusqu'à présent puisque je ne vais pas forcément parler directement des bibliothèques mais plutôt des visiteurs, des pratiques culturelles de visite de lieux d'exposition et puis des liens existants avec les réseaux sociaux numériques. Alors, simplement, j'aimerais rappeler un petit peu le contexte de l'étude. Alors, de quelle manière je suis intégré donc dans cette étude. Donc, je suis maître de conférence à Lyon 2 et chercheur au laboratoire Helico en sciences de l'information et de la communication. Et je travaille autour des thématiques des industries culturelles, de leurs mutations et puis des pratiques culturelles. Et des usages des technologies numériques, et puis des articulations entre professionnels, amateurs, etc. Et puis, donc, je travaille pour ce projet-là dans le cadre d'un projet qui s'intitule Catalogue d'exposition augmentée, zone de test, qui est porté par Alexandra Sammer, qui est maître de conférence à Paris 8, au sein du laboratoire Paragraph, et projet qui est donc financé par le LabEx. Art H2H, qui est en partenariat donc avec l'ENSAD, la BPI, la RMN, le Grand Palais et puis plusieurs laboratoires universitaires, notamment Helico, auquel j'appartiens. Donc c'est un projet financé sur 2 ans, dont l'objectif principal est d'identifier les usages des catalogues d'exposition numériques, de regarder si l'ergonomie de ces catalogues d'exposition facilite l'usage par rapport aux utilisateurs. Et puis finalement, peut-être à l'issue de ce projet d'analyse d'usage, de proposer des prototypes, un prototype de catalogue d'exposition qui soit un petit peu plus adapté aux logiques d'usage des visiteurs. Donc si vous ne connaissez pas forcément ces projets de catalogue d'exposition, il y en a un qui est assez célèbre, entre guillemets, qui est celui intitulé Edouard Hopper d'une fenêtre à l'autre, donc qui était lié effectivement à l'exposition qui avait eu lieu l'année dernière au Grand Palais sur Edouard Hopper et qui est donc sous la forme d'une application téléchargeable sur tablette. Un système donc d'interlien, d'hyperlien et de navigation thématisée sur plusieurs thématiques donc issues de l'œuvre d'Edouard Hopper. Voici un petit exemple pour visualiser un petit peu de quoi il est question. Donc je m'intègre dans ce projet et l'autre point important de cette communication, c'est que elle est élaborée dans le cadre d'un travail collectif que j'ai fait avec le service études et recherches de la BPI, donc avec notamment Christophe Evans, Muriel Amar et Agnès Camus, que je tiens à remercier et à saluer ici pour leur aide et puis leur participation active dans l'élaboration de la réflexion et puis la collecte de données, etc., que je vais vous présenter ici. C'est un travail qui est ici un petit peu encore expérimental, qui est en voie de construction. Donc, je ne présente pas un projet abouti ni une étude aboutie de ce projet, mais simplement des réflexions, des pistes théoriques, méthodologiques que nous sommes en train d'élaborer, mais qui d'ores et déjà ont donné lieu à des pistes un peu plus structurées de réflexions et d'hypothèses que nous allons ensuite encore travailler sur les mois à venir. Je vais un petit peu reconstruire la problématique, reconstruire un petit peu le cheminement de la pensée, la structuration du raisonnement par rapport à ce projet que nous avons mené. Dans le cadre de ce projet catalogue d'exposition numérique, il y a plusieurs sous-équipes. Hein, nous travaillons, disons, en collaboration, mais chacune de ces sous-équipes a ses thématiques et a son entrée particulière. Donc, une certaine équipe travaille sur le rapport entre usager et catalogue. Et puis, nous sommes une autre équipe qui travaillons plus eh bien, sur les retours de ces utilisateurs, de visiteurs sur les réseaux sociaux. Et on est parti à la base sur l'idée d'interroger un petit peu et de regarder quels étaient les avis, les modes de réception, les commentaires que les usagers laissent en ligne au sujet des catalogues numériques, sur les réseaux sociaux notamment. Alors regardez par exemple sur Twitter si des visiteurs ordinaires parlent de ces catalogues d'exposition numérique, est-ce qu'ils en font la promotion, est-ce qu'ils en font des évaluations. Et puis, on s'est très vite rendu compte de la pauvreté en fait, du terrain, c'est-à-dire qu'il y avait très, très peu de retours de ces visiteurs et donc peu de matière finalement à analyser. Et en revanche, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de retours sur les visites, en fait, sur ces réseaux sociaux. Donc, pas directement liés au catalogue d'exposition, mais sur l'expérience in situ de la visite. Et donc, comme on peut le constater, il y a des photographies publiées par des visiteurs ordinaires autour des expositions. Donc ça, c'est par exemple une photographie qui a été publiée sur Twitter par un visiteur, donc face à une œuvre mise en scène dans l'exposition Kunz. Et puis avec donc toute une diversité de retours de visiteurs sur ces réseaux sociaux qui marquent des modes de réception, des expériences de façon un petit peu originale, de façon assez expressive, et puis qui témoignent en fait d'un être là et puis d'une expérience qui se visualise et qui se donne à voir en fait sur les réseaux sociaux. Et c'est un petit peu autour de ça qu'on a décidé d'élargir notre questionnement et ne pas prendre en compte simplement les retours sur les réseaux sociaux par rapport au catalogue, mais les retours à l'échelle même des expositions. Alors on voit un autre exemple hein, pour un tweet donc, écrit en lien avec l'exposition Kunz, donc avec avec un contenu... un petit peu plus un petit commentaire donc à l'échelle de Twitter, c'est-à-dire un commentaire limité à 160 caractères, mais puis avec une sélection de photographies, etc. Donc il y a comme ça des formes d'expérience un petit peu élaborées qu'on peut retrouver, donc élaborées avec toute proportion gardée bien sûr, mais en relation avec le dispositif et le cadre technique du dispositif. Alors en fait, on a décidé d'élargir et puis de comprendre un petit peu les liens qui existaient entre numérique et pratique de fréquentation des lieux d'exposition, en se disant que peut-être qu'il fallait regarder un petit peu du côté de ce qu'on pourrait nommer, je le définirai tout à l'heure, une culture numérique des visiteurs, c'est-à-dire des aspects liés aux visites, mais qui soient configurés, structurés aussi par l'intermédiaire de l'usage d'un objet technique, d'un iPhone par exemple, d'une tablette, et puis en lien avec Internet, en lien avec une connexion, etc. Alors, si on problématise un petit peu, on sait que, par exemple, il y a une numérisation tendancielle des pratiques culturelles qui est rappelée notamment sur les dernières livraisons du DEPS et conduit par le sociologue Olivier Donat, où il revient sur la livraison 2009 sur la prise en compte nécessaire du numérique dans les pratiques culturelles et donc notamment de la médiation d'un outil technique numérique dans les consommations, les modes d'accès, etc. Et qu'effectivement, si on va un petit peu plus loin aussi, que des travaux en sociologie des usages, notamment Josiane Jouette dans les années 2000, puis un peu plus récemment Françoise Paquin-Segui, a montré que les pratiques culturelles, mais également communicationnelles, sociales, s'actualisaient. Pour ne pas dire évoluer, mais disons changent un petit peu, prennent des directions un peu plus nouvelles, innovantes peut-être, en tout cas actualisées des pratiques culturelles, et qu'il serait intéressant et nécessaire d'identifier pour comprendre de quelle manière évoluent ces pratiques culturelles. Et puis finalement... On parle de numérisation des pratiques, de pratiques culturelles en lien avec les technologies infocom. Et puis, certains sociologues n'hésitent pas à contextualiser cette tendance dans un contexte plus socio-historique qui serait celui d'un individualisme connecté à la technique, comme le rappelle Patrice Flichy. C'est-à-dire où finalement cet usage des techniques se cadre dans une logique où par la baisse de croyances, de légitimité de certaines institutions, il y aurait une tendance plus centrée sur l'individu, et puis un peu plus nombriliste pour faire très synthétique, et puis finalement des travaux portant davantage sur le web 2.0 et sur le web et sur les différentes plateformes montrent peut-être l'hypothèse aussi d'un individualisme expressif, c'est-à-dire qui expliquerait la dimension participative spécifique aux outils du web 2.0. Donc c'est un petit peu dans ce contexte général de numérisation des pratiques qu'on s'est posé la question donc, des pratiques de fréquentation des lieux d'exposition. Et donc en se demandant, est-ce que ces pratiques de visite s'actualisent, se transforment, évoluent aussi dès lors qu'elles sont médiatisées par un outil technique et qu'elles peuvent être publiées, médiatisées sur des sites web, sur Internet, etc. Ce qui nous amène à une dimension plus problématisée, qui est celle de la problématique tout simplement. Que finalement ces usages des réseaux sociaux numériques, donc tels qu'on l'a vu au niveau des traces que j'ai présentées tout à l'heure des photographies, seraient révélateurs de certains traits structurants d'une culture numérique qui serait spécifique aux visites d'exposition. Et effectivement, l'idée d'une culture numérique est empruntée aux travaux notamment d'Emmanuel Négrier qui a travaillé sur les usages par les festivaliers des sites web et notamment des réseaux sociaux, de Facebook, en parlant de traits structurants, de rites, de normes qui seraient liés à l'usage des réseaux sociaux qui seraient intégrés dans une pratique culturelle en particulier. Et donc, pourquoi pas l'hypothèse d'une culture numérique qui se construirait, s'articulerait à des logiques de pratique de visite d'exposition. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on s'est... Qu'on s'est posé ces questions-là. Alors, ça a l'avantage peut-être aussi de révéler un petit peu certaines des potentiels, des intérêts d'un point de vue heuristique finalement. Est-ce que c'est intéressant pour la recherche ? Et finalement, c'est vrai que regarder les expériences médiatisées sur les réseaux sociaux, peut-être que ça permet en effet d'identifier un petit peu mieux la nature des expériences esthétiques des visiteurs. Et puis d'avoir un retour un peu nouveau peut-être du moment de l'expérience d'exposition, de visualiser un petit peu sans forcément interroger directement, mais avec une dimension peut-être un peu spontanée de la réception des visiteurs dans des moments de musée, mais également peut-être d'identifier des logiques inhérentes à la publication, donc c'est-à-dire pourquoi, à un moment donné, des personnes qui visitent une exposition publient des retours, publient un moment d'exposition, publient un moment de réaction, sur quel réseau, pourquoi. Il y a une dimension qui serait liée à l'expressivité et au lien avec le numérique, ce qui ferait la spécificité d'une pratique culturelle numérique. Et puis, effectivement, comprendre derrière, faire le lien avec les enjeux plus institutionnels de cette culture numérique des visiteurs. Là, on serait davantage du côté des institutions qui seraient face à ces pratiques. Comment articuler une offre ? Comment articuler des stratégies liées aux médiations, à la médiation culturelle ? Liées à des modalités de circulation du patrimoine, dès lors que, effectivement, si on a des expériences de visiteurs, est-ce que ces expériences peuvent être considérées comme une mémoire patrimoniale, peut-être, par rapport à une exposition ? Est-ce que les institutions pourraient les utiliser, les réutiliser pour construire des nouvelles formes de mémoire sur les visites et sur certaines des expositions ? Ou alors, tout simplement, à visée promotionnelle ? La réflexion est sous-tendue par cette idée qu'il y aurait aussi des intérêts forts pour les institutions, que ce soit les musées, et puis peut-être, en élargissant un petit peu aussi, sur les bibliothèques, dans un autre contexte, mais avec des logiques un peu similaires. Je reviendrai un petit peu sur cet aspect à la fin. Alors, du coup, l'approche qu'on a envisagée est plutôt interdisciplinaire, qui serait marquée par les sciences de l'info, de l'information, de la communication, qui est une discipline qui se veut épistémologiquement interdisciplinaire et donc qui veut favoriser le croisement d'approches et l'articulation de différents types d'approches. Et finalement, trois pistes ont été retenues pour analyser ça, les profils, et associés aux pratiques culturelles un petit peu des individus, les contenus tweetés, c'est-à-dire les traces qui sont laissées sur ces réseaux sociaux, et puis les usages des visiteurs, c'est-à-dire la prise en compte des faits, du faire, des motivations, des logiques d'action propres aux visiteurs. Donc je reviendrai sur ces trois aspects tout à l'heure lorsque j'évoquerai un petit peu les résultats. Donc peut-être présentation du terrain et des méthodologie d'enquête. On a travaillé un petit peu sur tout ça en se posant la question du terrain tout d'abord, et on s'est dit qu'il serait intéressant de partir sur deux expositions qu'on analyserait d'un point de vue un petit peu comparatif. La première, qui est l'exposition Marcel Duchamp, qui a été donc présentée au Centre Pompidou cette année. Donc du 24 septembre au 16 janvier 2015, et puis l'exposition Jeff Koons, qui est toujours en cours là ici aussi au Centre Pompidou, donc du 26 novembre au 27 avril. Alors plusieurs raisons de ce choix, je l'ai dit, une dimension un peu comparative qui serait peut-être heuristique entre deux artistes qui peuvent se ressembler pour des raisons esthétiques artistiques, notamment avec le ready-made, etc. Mais l'un quand même plus grand public peut-être que l'autre, etc. Donc avec peut-être des logiques de public qui seraient un petit peu différentes. Et puis surtout l'idée que ce sont des expositions en cours et que d'un point de vue de la récolte de données, ce serait peut-être plus facile d'aborder des visiteurs et puis d'avoir un petit peu de récolter leurs expériences dès lors qu'elles sont toujours un petit peu actuelles et non pas faites il y a plusieurs années. Donc il y avait cette dimension là. Alors, on a élaboré deux volets d'enquête. Le premier, un volet plus quantitatif, qui serait basé sur l'analyse de contenu, donc des traces d'usage de tweets, donc publiées par des visiteurs ordinaires, c'est-à-dire visiteurs ordinaires dans le sens de visiteurs qui ne seraient pas liés à un média, à un blog en particulier, ou qui ne publieraient pas sous, par exemple, un espace éditorial un peu plus légitime, comme un journal, etc., mais plus des visiteurs qui se présentent selon leur nom propre ou selon un pseudonyme. On a identifié ces tweets selon des mots-clés, donc on reviendra peut-être sur, si vous avez des questions sur la question méthodologique là-dessus, en prenant en compte un échantillon d'un mois à chaque fois, donc Duchamp entre le 1er et le 31 octobre et Jeff Koons 1er et 31 décembre, et puis un parti pris de récolte des tweets à la main, entre guillemets. Nous n'avons pas utilisé forcément de logiciels informatiques, de data mining ou de robots, parce que par faute de moyens, éventuellement aussi, avons-le, un petit peu de savoir-faire pour des questions de temps également. Donc, mais quand même, avec la défense de dire que finalement, pour ce genre de récupération et de données, c'est quand même intéressant d'éviter la boîte noire du dispositif pour reconstruire soi-même ces données, savoir ce qu'on est en train de catégoriser, de coder, et de revenir un petit peu à une approche un peu bricolage, même si c'est assez long en termes de temps. Donc avec Duchamp, on a récolté 100 postes, et puis avec Koons, 450. Donc on voit déjà qu'il y a une petite différence en termes de publication sur les deux expositions. Et puis un volet qualitatif, d'une part par des entretiens semi-directifs, afin de relier un petit peu ces traces à des pratiques sociales, pour les humaniser un petit peu, si j'ose dire. Et puis, donc de visiteurs, effectivement, ayant tweeté, sachant qu'il y a eu des difficultés effectivement pour les contacter, parce que effectivement, les liens ne sont pas forcément explicités sur Twitter dans les profils. On n'a pas forcément leur nom, on n'a pas forcément leur contact. Et dès lors, un jeu de pistes se construit, c'est-à-dire que eh bien, on fait des recherches sur Google, on tente de chercher le lien d'email, un blog, etc., sur lequel pouvoir aborder ces personnes. Et puis, avec un guide d'entretien qui serait plus basé sur la reconstruction de carrière de visiteur, c'est-à-dire d'une approche plus large à l'art, sur la vie de l'individu, et puis plus basé peut-être sur l'usage des réseaux sociaux en contexte de visite. Alors, j'essaie de me dépêcher, le temps passe. Donc, peut-être sur trois axes de résultats que j'aimerais présenter. Donc, le premier concerne les profils. Alors, autour des profils de ces personnes qui tweetent, on s'est posé la question de finalement, est-ce qu'on peut identifier des personnes, est-ce qu'on peut catégoriser ces publics d'un point de vue socio-professionnel, d'un point de vue de leurs âges, etc. Partant de l'hypothèse qu'effectivement, ce serait davantage des personnes CSP+, en majorité, avec un fort investissement dans les pratiques culturelles, d'art, et puis finalement aussi également les pratiques en ligne. Ce qu'on sait un petit peu plus généralement par une enquête faite il y a peu par le Centre Pompidou, c'est que 3 visiteurs sur 4 sont équipés d'un smartphone, ce qui représente quand même une grande majorité, bien sûr, des visiteurs, et que malgré tout, seulement 22% des visiteurs postent pendant leur visite, donc 77% sur Twitter, 37% sur Instagram et 82% sur Facebook. Ce qui n'est pas énorme, et sachant qu'on ne sait pas s'il y en a qui postent après leur visite également, ce qui peut être aussi le cas, puisqu'ils peuvent poster ensuite en rentrant chez eux, donc ça reste comme une expérience proposée, mais voilà. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a des difficultés pour identifier les profils de ces personnes sur Twitter, parce que effectivement, les profils renseignés ne sont pas très parlants. Parfois, il y a bien des moyens de faire entendre son point de vue. Nos choix de consommation peuvent engendrer des changements positifs. Vegan, anti-spécisme, go vegan, etc. Donc, il y a des manières de s'inscrire et de s'identifier qui sont très, très, très personnalisées, qui mettent l'accent sur des aspects particuliers, mais difficilement sur des aspects plus classiques pour catégoriser ces personnes ou du moins identifier. Donc, on peut identifier les genres, peut-être sur certains, mais pas sur d'autres. Nati, on ne sait pas trop. La profession difficile, mais on voit qu'il y a des liens de blog. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on essaie de reconstruire derrière les différents profils en fonction des éléments qu'on peut avoir. Donc ça, c'est une première difficulté qu'on a, par exemple, sur la question sur la récolte de tweets pour pouvoir identifier les personnes qui tweetent effectivement. Alors du coup, on a quand même réussi un petit peu en fonction des différentes données disponibles à reconstruire un petit peu des catégorisations. Alors il y en a quelques-unes que je peux proposer. Donc d'une part, ce sont davantage des publics français et en grande majorité parisiens qui tweetent sur ces expositions-là, sur les deux expositions. Il y a une répartition qui équilibrée entre hommes et femmes. Et puis, effectivement, en termes de catégories socio-professionnelles, parmi tous les gens qui tweetent, on a une grande majorité de cadres et professions intellectuelles supérieures, avec une forte majorité de professions liées à l'information, art et spectacle, donc des journalistes, designers, photographes, des cadres administratifs et commerciaux d'entreprise, des consultants chargés de com. Et puis, 13% concernent les personnes sans activité professionnelle et concernent en majorité, effectivement, les étudiants et lycéens. On constate également qu'il y a la copie de l'info précédente, mais également aussi 1% de professions intermédiaires et d'ouvriers, 1% qui concerne pour les professions intermédiaires davantage les enseignants du secondaire, Alors. On a essayé également aussi de catégoriser un petit peu les profils avec ces présentations de profils tels qu'ils sont sur Twitter en identifiant des domaines professionnels. Alors, par exemple, en identifiant En recatégorisant finalement les informations qu'on avait. Et on s'est dit que domaine professionnel, ce serait peut-être plus intéressant pour essayer d'identifier, en essayant de reconstruire et de redécouper les différents éléments. Donc ce qu'on s'aperçoit, c'est que sur Duchamp, ce sont majoritairement les gens qui travaillent dans le domaine de l'art, qui tweetent, suivis des gens qui sont liés au domaine de la culture, puis du journalisme et des médias. Sur l'exposition Kunz, de la même façon, l'art est se porte bien, mais n'est pas majoritaire, puisque c'est plutôt les gens qui travaillent dans le marketing et la communication. Le journalisme et les médias et les arts et l'art sont les trois donc grandes majorités, avec une baisse particulière de certains éléments, notamment de la culture et de l'enseignement. Donc il y a effectivement probablement des biais à prendre en compte dans tout ça, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dans une dimension un peu expérimentale et on teste. Les tableaux ne sont pas complètement encore bien calculés, etc. Donc on voilà, c'est un petit peu l'approche qu'on veut avoir par rapport à Twitter et cette présentation-là qui est plus une réflexion. Au niveau des contenus, deuxième pôle qui concerne donc les pistes qu'on essaie d'aborder. On a identifié deux grandes catégories de tweets. Donc là, la difficulté aussi a été de catégoriser les tweets. J'y reviendrai peut-être dans les questions si voilà. Alors, le premier type de tweet, ce serait des tweets de type information relayée, c'est-à-dire qui seraient identifiés comme non liés à une expérience de visite. C'est-à-dire où les personnes transmettent une information éditée par ailleurs, notamment issue d'un journal ou d'un média, quel qu'il soit. Donc typiquement, Beaubourg retire une œuvre de Kunz accusée de contrefaçon avec un lien sur un journal. Et puis un deuxième type, qui serait un type expérience vécue, qui serait lié à une expérience de visite directe, c'est-à-dire où le visiteur serait in situ, aurait été in situ, mais qui serait lié à donc, une expérience directe. Donc, par exemple, fasciné par la pièce de la collection Gazing Ball. Voilà. Donc, deux exemples de tweets de ce type. Alors, information relayée, voilà, avec un tweet libé, où on relie donc libé, et puis un tweet d'expérience. Donc, un petit rebond chez Pompidou pour bien finir l'année, où on commente un petit peu son être-là à ce moment-là. Alors, ce dont on s'aperçoit, c'est que, en termes de proportion, les expériences de visite sont majoritaires dans les deux expositions, et que l'information relayée reste un peu plus minoritaire, et que donc, compte tenu de ça, on peut donc penser que les tweets liés aux visiteurs ou aux musées ou aux amateurs d'art, etc., notamment par rapport à ces expositions, sont d'abord issus de type expérientiel, et que finalement, il serait intéressant aussi, après ça, de définir, de catégoriser plus en détail ces deux grandes catégories. Donc, un deuxième niveau de registre qui serait un plus intéressant pour affiner en fait ces différents tweets, donc un travail de typologie qui est assez difficile aussi, donc avec des informations relayées qui seraient d'informations d'actu, d'informations critiques, d'informations prescription, et puis des expériences vécues qui seraient sous-catégorisées en description, exposition, utilisateur, évaluation et prescription également. Donc si on s'intéresse davantage à l'expérience vécue, comme je disais tout à l'heure, on voit sur le premier un exemple de description-exposition, c'est-à-dire où l'utilisateur, dans son contenu, ne parle que de l'exposition, donc et présente un moment d'exposition, décrit l'exposition, Doug Kunz. Une autre, Late Jeff Kunz, alors elle est en anglais, mais en gros, elle explique qu'elle est en train de vivre le dernier jour de ses vacances en France, donc là, centrée sur l'utilisateur. Un troisième tweet qui est centré, moi je n'ai pas trouvé surprenant la rétrospective, sur l'évaluation, donc le rapport, le jugement par rapport à l'exposition. Et puis un quatrième type de tweet qui serait une forme de prescription. Donc courez-y avec effectivement un appel lié à d'autres utilisateurs. Donc très rapidement, la description exposition est majoritaire et apparaît, donc on pourrait y revenir si vous voulez. Ces tweets sont souvent accompagnés de photographies qui peuvent aussi faire parler le tweet et nécessitent donc un travail sur la photographie qui est particulier, sur la pratique de photographie sur les lieux. Et puis, dernier point, autour des logiques de publication. Alors, là, on s'est plutôt intéressé à, désolé pour la mise en page, qui n'était pas présente sur le Mac. Donc, une première logique d'usage qui serait que, finalement, publier un tweet est quand même une expérience à partager qui se publie avec ses proches, pour ses proches. Donc, comme l'indique l'une des interrogées, elle publie cette photo-là lorsqu'on lui demande qu'elle l'a publiée pour sa fille, pour montrer cette exposition à sa fille, pour montrer un objet d'exposition à sa fille, mais également au père de sa fille, qui n'aurait pas le temps d'aller voir l'exposition. Et donc, il y a l'idée d'une logique d'action qui serait liée à la présentation et au partage avec les autres, avec ses proches. Le deuxième aspect, c'est que le choix de la plateforme sur laquelle poster dépend un petit peu du collectif de pairs qui est recherché. Alors, si on prend le même exemple de Caroline, on voit que sur Twitter, elle a 2300 abonnés, et sur Instagram, elle n'en a que 642. Et finalement, lorsqu'elle décide de publier sur Twitter, c'est parce qu'elle sait qu'elle va s'adresser à un collectif beaucoup plus large, 3383 abonnés potentiels, qui pourront potentiellement lire son tweet, et donc avec une logique particulière d'expression qui serait plus largement véhiculée, et puis Instagram qui serait davantage lié à un collectif plus restreint, mais plus qualitatif dans le sens où le collectif sera davantage intéressé par la photographie, par la discussion autour de la photographie, etc. On voit bien sur Instagram que le post de la photo donne davantage lieu à des réactions, à des échanges, quand bien même il soit un petit peu fruste, alors que sur Twitter, il n'y en a aucun, il y a juste un favori qui a été mis, mais finalement pas de réaction, pas de retweet, pas de commentaires. Et ce qui est d'ailleurs une caractéristique de beaucoup des tweets collectés, c'est qu'ils ont très rarement des commentaires et très rarement de retweets et de favoris. Donc c'est souvent des tweets qui restent un petit peu... on a l'impression qu'ils ne sont pas directement reliés par d'autres. En revanche, l'intention est quand même davantage de mettre en partage cette expérience-là. Et puis, dernier point là-dessus, que la composition... des tags, donc des hashtags ou des mots dièses qui sont présents sur un tweet correspond à l'inscription du post dans des collectifs aussi. Donc faire du hashtag, choisir ces hashtags, composer ces hashtags est fait aussi selon une logique de mise en visibilité du tweet dans des collectifs particuliers pour faire identifier le tweet et puis pour le relier à certains collectifs parfois extrêmement spécifiques. Donc, si on prend l'exemple de e-girls Paris ou IG Friends, en fait, c'est des tweets qui correspondent. Le tweet correspond à Instagrammeur Paris ou Instagrammeur France. Et donc, on voit bien là une stratégie de relier son tweet et de le rendre visible à une communauté qui serait celle des Instagrammeurs Paris, etc. Donc là aussi, on voit que la logique de tweet se construit selon une volonté de lien avec des collectifs variés et différents. Et effectivement, on peut revenir à la typologie de Dominique Cardon qu'il propose sur les différentes plateformes. Chaque plateforme ayant proposant un régime de visibilité différent. Twitter proposant un régime de visibilité beaucoup plus élargi parce que les tweets sont publics. Et puis Instagram permettant un régime de visibilité un peu plus restreint à ses catégories d'abonnés et à ses abonnés. Donc j'arrive directement à la conclusion. Conclusion en plusieurs points. La première, que retenir donc de cette culture de visiteurs, culture numérique des visiteurs d'exposition. Si on résume un petit peu sur les profils, il s'agit d'une minorité de visiteurs équipés qui travaillent dans des domaines liés à l'art, aux médias, à la communication. Les pratiques en ligne sont assez fortes pour eux, c'est-à-dire qu'ils ont souvent des blogs, qu'ils ont souvent une activité à côté d'édition de contenu sur des sites web, qu'ils ont plusieurs plateformes interconnectées les unes aux autres, etc., et qu'ils sont sensibles au partage d'expériences en général. L'une des enquêtées nous explique, par exemple, qu'elle pratique souvent ça, par exemple, lorsqu'elle va au cinéma, lorsqu'elle va à un concert, et bien d'avoir cette logique de partage sur des réseaux sociaux d'une expérience. Le deuxième point sur les contenus et les traces, c'est que ce sont des expériences vécues qui reviennent le plus, qui sont déclinées en plusieurs types et qui montrent aussi l'importance de la photographie qui est à analyser un peu plus en détail. Et les logiques de publication donc, qui sont inscrites dans des collectifs selon des registres de visibilité proposés par les plateformes et dont on peut faire le lien avec cette idée d'expressivisme et d'expressivité individuelle, mais aussi rattachée donc, à des collectifs en particulier. Alors, effectivement, on peut derrière se poser la question d'enjeux institutionnels, c'est-à-dire que est-ce que finalement ces différentes logiques permet de repenser le lien entre visiteur et puis l'institution, c'est-à-dire est-ce que le visiteur ne peut pas aussi quelque part être une source, un relais d'information particulier par rapport à l'exposition, par rapport à la promotion de l'exposition, par rapport à sa médiation, en fonction de certaines photographies, en fonction de certaines réactions, en fonction de certaines évaluations qui sont médiatisées. Et puis, est-ce que finalement, peut-être que des logiques, des stratégies qui sont liées au patrimoine, à la construction d'une mémoire de l'exposition, de l'art, finalement, ne seraient peut-être pas aussi éclairées, renforcées par ces expériences de visiteurs. Et finalement, et je finirai là-dessus, si on revient sur le projet des catalogues numériques augmentés, on voit bien que l'idée d'identifier les traits spécifiques de cette culture numérique permet peut-être de penser de façon un peu plus peut-être originale la conception d'un catalogue d'exposition, sachant que peut-être qu'au-delà d'une simple appli qui serait proposée avec un système hypertextuel, est-ce que l'idée d'un projet de catalogue qui serait plutôt basé sur des logiques de participation, des logiques où les visiteurs pourraient construire leur album en fonction de leurs expériences, avec la possibilité d'éditer des photographies personnelles ou d'éditer du contenu personnel. Est-ce qu'un album, un catalogue d'exposition qui serait construit sur une dimension d'interconnexion entre les différentes plateformes et donc de type transmédia pourrait être aussi intéressant? Et c'est un petit peu, finalement, la voie l'idée d'une ergonomie de catalogue numérique d'exposition qui serait davantage participatif, davantage interrelié, davantage transmédia. C'est un petit peu la perspective qu'il y a et dont l'objectif est de travailler en fait la conception et l'ergonomie avec des designers de l'ENSAD. Donc j'arrête là et je vous remercie pour votre attention.
Merci. Je suis un peu désolé, mais il est 16h15 et comme Christelle intervient tout de suite, votre exposé était, à mon avis, suffisamment complet. Sans doute nécessite-t-il des réponses à des questions potentielles, mais je pense qu'il faut qu'on passe la parole maintenant à Christelle, puisque vous avez maintenant 45 minutes avant de sauter dans votre train, si j'ai bien compris, et avant de sauter dans le nôtre aussi, qui n'est pas le même. Alors, une question ou deux questions? Bon, alors, une question éventuelle. Je suis le maître des horloges, vous savez.
Non, c'est une question qui ne peut pas répondre maintenant. La catégorisation par domaine professionnel.
Oui.
La différence entre art et culture.
Bravo. Effectivement. Alors, c'est une des questions qu'on s'est posées, effectivement, et puis on a finalement décidé de faire cette distinction en marquant la différence entre les créateurs en termes d'art, c'est-à-dire les photographes, les artistes, les peintres, les réalisateurs de films, etc., et puis les personnes qui travaillent dans l'institution culturelle, en fait. Voilà, c'est cette différence qu'on a voulu marquer.
Alors, juste une petite remarque sur tout le travail que vous avez présenté, qui est extrêmement complet. Alors, juste pour vous dire, pour vous expliquer mon angle de réponse, en fait, j'ai travaillé avec Twitter France et la formation de Community Manager au travers d'un événement qui s'appelle la Twitter Academy, qui a lieu une fois par an. Et en fait, deux points. À un moment donné, vous présentez sur le slide 33, il me semble, la répartition publication médias et grand public. Mm-hmm. Il faut aussi, je pense, pour compléter votre point de vue, que vous vous intéressez à la façon dont ces tweets pénètrent les réseaux, notamment le nombre de favoris de retweets dont ils font l'objet. Et là, on va voir qu'effectivement, il y a un peu comme le Darknet, une grande partie des tweets personnels, à mon avis, de l'exposition, qui vont rester quasiment non vus, imprimés zéro fois, parce qu'en fait, le nombre de fois où un tweet est vu chez Twitter, on appelle ça une impression. Et donc, du coup, c'est des tweets qui existent, que vous avez vus, parce que vous avez fait une recherche, mais sur laquelle le nombre infini de gens sur Twitter ne verront jamais. Et par contre, les tweets qui contiennent des liens médias, Twitter, dans les zones de Twitter qui s'appellent à découvrir, va vraiment, par son algorithme, les faire remonter, et ils vont être extrêmement vus. Donc le fait qu'il y ait un objet qui est, de l'expo qui a été retiré, ça va être très très vu, et la personne qui a posté sa photo ne sera pas forcément vue, donc il y a une logique de pertinence, je pense, qui devrait enrichir votre travail d'observation. Et ensuite, le dernier point, c'était... le fait qu'à un moment donné, vous disiez qu'il y avait un lien Instagram et qui faisait l'objet de beaucoup de commentaires sur le réseau social Instagram et très peu sur Twitter, c'est que dès qu'on passe par une application tierce, Twitter se réserve la possibilité d'afficher le contenu de ce lien ou pas via des API. Bref, voilà. Et en gros, les liens vers Instagram sont bloqués. C'est-à-dire que la photo qui appartient au Instagram à une époque était visuellement affichée et aujourd'hui ne l'est plus pour des raisons de politique interne, etc. Et tout. Et du coup, forcément, si un tweet ne contient pas une photo qui est visible dans un flux, forcément, le nombre de commentaires et de liens, etc. et tout, va être moindre que la personne qui va utiliser l'application Twitter directement pour publier une photo. Donc ça aussi, c'est une petite nuance. Mais après, sinon, c'était vraiment
effectivement,
génial.
Alors, je remonterai juste sur le dernier point. Il y a une personne qu'on a interrogée qui est consciente de ça et qui décide... l'iPhone est configuré automatiquement par l'appli à Instagram. Mais du coup, donc depuis Instagram, on peut publier automatiquement sur Twitter. En revanche, elle était gênée par le fait que le tweet n'aurait que le lien Instagram et non pas la photo. Et donc, ce qu'elle refait, c'est qu'elle republie le tweet en remettant la photo par Twitter, justement pour que le tweet soit plus visible. Et voilà, c'est une... C'est ça.
Bien, merci.